Direct en jeu, la radio insolite. Eh ben, il va falloir revenir 400 ans en arrière, parce que vous savez que cette année, en 2022, nous fêtons les 400 ans de la naissance d'un petit jeune qui, il y a quelque temps, avait créé... Bon, mais bon, c'est pas grave. Hein. Le petit jeune, là, c'est pas le bon, entre guillemets, puisque j'ai le plaisir d'accueillir cette fois-ci Grégoire. Bonjour Grégoire.
Bonjour Alain, bonjour à nos auditrices et auditeurs.
Exactement. Voilà. Alors, si je voulais faire d'humour, je dirais que toi, c'est pas difficile de se rappeler ton nom, étant le fait que, si j'ai bien compris, tu as une station de RER à Paris qui porte ton nom.
Alors, c'est d'autant plus amusant que c'est un arrière-grand-oncle très éloigné, certes, mais de ma propre famille. Et moi, j'ai des origines anglaises, et le Aubert en question s'est fait enlever le T, de son nom, parce qu'il était en fâché avec sa propre famille. Donc, il a fait enlever son T. Mais c'est un compositeur qui a fait des choses magnifiques, pour ceux qui prennent le temps d'écouter. C'était très amusant. Et si j'ai parlé de mes origines anglaises, c'est parce que le T est très important en anglais. Et bien, comme par hasard, le compositeur Aubert a fait enlever le T de son nom. Voilà.
Ça y est, je viens de comprendre le jeu de mots.
Voilà. Ah oui, et j'ai trouvé ça très drôle.
C'est vrai que le T, la cup of tea, c'est...
Et ben voilà. C'est là, c'est le cut of tea. Voilà.
Bon, si je devais... j'aime bien résumer en général avec mes invités. Je me casse pas la tête, la question est toujours la même. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie?
Alors, bah, qui je suis? Je suis déjà un vieux barbon, hein.
un peu baroudeur.
Famille, hein. Oui, jeune homme de bonne famille, bien évidemment, même santé. Enfin, bah, non, j'ai gardé le thé. Et j'espère la santé aussi. Alors, je fais le métier artistique dans le théâtre. J'écris, je produis, je joue, je mets en scène. Enfin, voilà, responsable d'une compagnie de théâtre. Et ça fait quoi, 30 ans que ça dure? Voilà, quelque chose comme ça. Et je suis depuis presque 20 ans dans le sud de la France. J'étais beaucoup dans le Gard et là je viens de m'installer dans le Vaucluse à Avignon. Voilà.
Ouais, c'est un peu connu Avignon, je pense, par rapport
au théâtre. Pour le théâtre, il paraît qu'il y a des choses à faire, à voir, ouais, et aussi beaucoup de personnes à rencontrer, bien évidemment.
Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans ce tonneau du théâtre? C'est une rencontre?
C'est très long. Non, j'ai toujours aimé ça parce que pour le côté magique, le rêve que cela pouvait provoquer chez dans les yeux d'un enfant, ce qui était mon cas. J'ai vu mon père jouer sur scène, lui tout à fait en amateur. J'ai vu évidemment des pièces. Ça m'a fait rêver. Je savais que j'aimais ça, mais comme un petit gamin qui n'avait pas confiance en moi, j'ai mis du temps à franchir le pas, hein, à me dire que c'était vraiment ma destinée, ma voie. Et j'étais fou amoureux du cinéma au départ, parce qu'on voit la vie en grand, et j'ai vraiment, en tant qu'ado, jeune enfant et ado, j'ai découvert le monde par le biais du cinéma, et on rêve en grand, on voit en grand, et le théâtre un jour m'a fait comprendre que ben non, il y a quelque chose de plus authentique dans le théâtre, plus immédiat. Et une fois que j'ai touché du doigt parce que évidemment on fait que n'importe quel gamin se retrouve un jour sur scène, que ce soit à l'école ou ailleurs, etc. Ben, une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage et qu'on sait qu'on a ça en soi, ben la machine est en route et on s'arrête plus. Et j'adore toujours autant le cinéma, mais le théâtre reste quelque chose de beaucoup plus magique, parce que je trouve qu'on triche beaucoup moins au théâtre. Voilà, tout simplement.
Vu que tu m'as dit que tu étais un jeune ado pubère, le cinéma, c'est le cinéma des Frères Lumière, c'est le cinéma muet, c'est le cinéma noir et blanc. C'est toi qui as commencé, hein.
Moi, je... Oui, mais c'est déjà du vieux cinéma, mais non, c'est marrant, parmi les chocs cinématographiques que j'ai eu en tant qu'ado, c'était l'année Ridley Scott avec Alien et Blade Runner, par exemple.
Ah oui, des films qui sont très faciles à assumer, oui. qu'on a l'habitude de voir tous les soirs à la maison.
Ah ben, tout le temps. J'ai pas de films de chevet au demeurant, mais ça, il n'en reste pas moins qu'effectivement, ce sont des films qui marquent, qui non seulement ont marqué les spectateurs, mais qui ont marqué leur époque. Quand on voit Blade Runner aujourd'hui, c'est hallucinant. Tout le cinéma fantastique depuis a été nourri de Blade Runner, par exemple. Voilà.
Et alors, pourquoi avoir choisi d'être plus traditionnel dans le théâtre? Parce que là, bon, peut-être il n'y a pas que Tartuffe de Molière.
Non, on va peut-être en parler, mais oui.
Est-ce que tu as fait des choses qui étaient en rapport avec les deux films dont tu viens de nous parler?
Non, alors, des comédiens, comédiennes qui ont joué mes pièces et qui disent que j'ai une écriture très cinématographique, ce que enfin, en fait, je n'en sais rien. J'ai pas de regard et ni d'analyse par rapport à ce que je peux faire. Le théâtre, il y a une réalité pour moi, ce que je disais, plus immédiate. On doit être, enfin, il y a quelque chose de plus vrai, je trouve, dans le théâtre. Ce que l'on voit. Alors maintenant, bien sûr, qu'il y a des spectacles aujourd'hui qui utilisent la vidéo, qui utilisent des trucs technologie de fou. Moi, je suis un peu plus traditionnel. C'est vrai que le théâtre, c'est un texte avec un texte, un comédien ou une comédienne et un projecteur, on arrive à faire du théâtre, quoi. Mais l'idée est surtout à faire quelque chose de magique et de beau. Il ne s'agit pas juste de balancer trois vannes. Ça ne m'intéresse pas spécialement. En revanche, c'est y a une réalité économique aussi. J'ai beaucoup de choses à écrire, à dire, c'est aussi du plaisir, le théâtre, et enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je peux pas passer 10 ans de ma vie à essayer de monter un film. Voilà. Là, au théâtre, j'écris une pièce, si je m'en donne les moyens, 3 mois après, elle est déjà jouée sur scène. Voilà. Il y a quelque chose de plus immédiat, plus, c'est une autre économie quand même. Voilà.
D'accord. Où étais-tu en 1664, s'il te plaît?
Alors, je pense que j'étais même pas encore dans les projets de qui que ce soit. J'ai découvert cette date-là, comme tout le monde, un peu dans les livres d'école, hein, n'est-ce pas? Et c'est je trouve que c'est un des problèmes d'ailleurs le rapport au théâtre que l'on a à l'école. La majorité des élèves, si on les interroge, oh là là, on va encore s'ennuyer, s'emmerder, on va aller voir une pièce, un classique, on va aller voir Molière, ou je sais pas, c'est Shakespeare, voilà.
On est bien d'accord, c'est présenté, oui, peut-être que c'est présenté, parfois, on a l'impression...
Oui, mais c'est aussi la responsabilité des profs, déjà, de savoir comment on présente les choses et que ce soit pas trop scolaire, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que il faut faire... Moi, j'ai monté Molière, je l'ai découvert finalement sur le tard, par l'intérieur. Une fois que j'ai monté mon premier Molière, c'est ce que je veux dire. Mais il y a déjà tout. Quand j'ai monté Les Fourberies de Scapin, j'ai halluciné de voir que quand j'entends maintenant des humoristes qui se prennent pour des petits génies, mais il y a 400 ans, on faisait déjà, enfin tout était déjà écrit. Alors évidemment avec peut-être une langue un peu plus ampoulée, parfois un peu plus précieuse, sans être ridicule, mais tous les ressorts de la comédie, voire même du drame, ont déjà été utilisés et grandement et magnifiquement utilisés par Molière, qui lui-même faisait de l'impro, faisait beaucoup de choses. Hein, le théâtre à ce niveau-là a un côté immuable.
D'accord. Alors, je vais expliquer aux auditeurs pourquoi je parle de 1664. C'est simplement que c'est en 1664, Louis XIV, un roi un peu connu en France, interdit la représentation de la nouvelle œuvre de Molière qui s'appelle Tartuffe.
Absolument.
Parce que justement, y a un petit problème concernant l'hypocrisie, le manteau ecclésiastique, etc., etc. Ça te dérange pas d'aller reprendre aujourd'hui une pièce qui était interdite à l'époque?
Oh bah, certainement pas. au contraire, c'est même un.
Certainement pas.
Ah ouais. Ah non non. Oh bah non, au contraire. Déjà, il y a le côté montrer que Molière est toujours très actuel. Alors déjà dans sa forme. Bon, il y en a qui. Je fais du théâtre entre guillemets classique, mais pour autant, ça bouge, ça remue. Il y a de la musique. Enfin, voilà. Je l'ai un peu réduit aussi le Tartuffe de Molière. Donc déjà, je parle déjà de la forme, c'est quelque chose qui, quand on voit la pièce, on est embarqué dans pendant une heure et demie, on est pris par l'histoire, ça, et c'est franchement ça. vu les retours, c'est que ça fonctionne bien et donc ça reste tout à fait actuel, contemporain et ça parle même aux jeunes. Voilà, ça c'est le premier point. Mais sur le fond même, je trouve que le sujet, évidemment, alors on peut, ça a été traité de tellement de manières différentes. Et, déjà toutes les pièces de Molière, mais en particulier ce Tartuffe. Mon parti pris n'a pas été que de, allez, on va dénoncer les Tartuffes de la religion et Dieu sait s'ils sont nombreux aujourd'hui de toutes les religions, n'est-ce pas, et avec ces complicités, puisque ça ne reste finalement que des luttes de pouvoir. Et là, j'ai élargi le propos qui est déjà quand même dans le texte original de Molière. Et c'était ça, c'est pour ça que j'ai choisi Tartuffe, c'est de parler un petit peu du féminisme et que ce sont les femmes. C'est le sous-titre du Tartuffe que j'ai adapté, c'est quand les femmes prennent le pouvoir. Et finalement, c'est toujours les femmes qui sont l'élément déclencheur d'une certaine révolution, ou en tout cas dans en l'occurrence, c'est elles qui vont mettre à jour les manœuvres du Tartuffe et qui prennent les choses en main, si vous voulez. Voilà. Donc j'en ai fait un spectacle un petit peu MeToo dans l'esprit, même si le féminisme reste, enfin il y a tellement de féminismes différents, ça reste Bon Enfant, c'est un spectacle qui c'est plus joyeux que du théâtre de combat qui dénonce. Voilà.
Ce qui est original, c'est que tu as remplacé carrément des comédiens par des comédiennes.
Exactement. C'est trois comédiennes. En fait, c'est trois femmes qui s'emparent du texte de Molière, de Tartuffe. Et donc, effectivement, elles vont nous raconter l'histoire de ce Tartuffe. Elles jouent tous les rôles. Bon, bien évidemment, il y a eu des coupes, il y a des personnages en moins, il y a des répliques qui ont été réattribuées à d'autres. Mais elles jouent bien les rôles importants de Tartuffe, évidemment, de Orgon. Le vieux qui est sous la coupe, le maître de maison qui est sous la coupe de Tartuffe, qui est le dupe principal de Tartuffe, mais elle s'en amuse. Ce sont bien des femmes qui jouent des rôles d'hommes, et j'ai pas féminisé Tartuffe en faisant une tartuffette, ou je ne sais pas comment on pourrait le dire. Non. Voilà le parti pris. L'autre, pour que ça reste très joyeux, et je voulais aussi que ce soit beau entre nous, donc il y a une belle création lumière qui a été faite par le musicien d'ailleurs, il est également musicien, de Benjamin Civil. Donc ça reste un beau spectacle. Voilà, il y a des beaux tableaux, et en plus il y a une création musicale qui est faite soit en enregistrement, soit jouée en live par les comédiennes, ce qui est évidemment un plus parce que ça ajoute énormément d'entrain, d'émotion aussi, parce que la musique est une émotion. Donc on a vraiment un spectacle assez total, assez complet par rapport à ça.
Quand on a fait le marathon que représente Avignon, on arrive encore à trouver, j'allais dire, trouver envie de rejouer la pièce.
Alors, faut demander aux comédiennes. mais oui, on trouve toujours des choses un petit peu nouvelles. Je parlais de tout à l'heure, la différence entre le cinéma. Enfin bon, on pourrait faire une thèse là. On va pas en parler aussi longtemps. Mais c'est que finalement, on trouve des choses nouvelles à chaque représentation. Le jour où on ne s'amuse plus sur le plateau, c'est qu'on a fait le tour de la pièce, ou peut-être d'autres choses dans nos propres parcours, et bon, il faut passer effectivement à autre chose. Mais non, on s'amuse toujours autant, parce que il y a chaque représentation, même s'il y a des codes, il y a des choses qui restent, parce que il y a une mise en scène, il y a évidemment on a des contraintes, etc. On a le texte aussi. Il n'en reste pas moins que chaque représentation est unique. Le public change tous les jours. On n'a pas le même rôle. Et nos humeurs de comédiens, comédiennes changent aussi. Et c'est cette triple écoute au théâtre. On écoute le public, on écoute nos partenaires et on s'écoute soi-même.
C'est la mission du cinéma. Le cinéma, c'est toujours, comment dire, quelque chose qui est marqué sur une...
C'est sur une pellicule. Enfin, maintenant, il n'y a plus vraiment de pellicule. Mais enfin, en tout cas, c'est enregistré.
C'est vrai que le théâtre, c'est toujours éphémère et tout. Et toujours un numéro zéro. On peut aller voir un spectacle deux jours de suite. C'est pas le même, quoi.
on verra pas exactement le même. C'est exactement ça. Et alors que au cinéma, on voit pas toujours le même film. C'est toujours le même film, mais c'est l'humeur du spectateur qui peut changer.
L'humeur de la salle aussi, non, mais c'est vrai.
Et de la salle. Ouais.
Il va se jouer où, le Tartuffe? Il continue.
Il continue à se jouer, bien évidemment. Donc, il y a des dates déjà qui sont calées, d'autres qui vont se décider là après le Festival d'Avignon. Donc, la prochaine représentation, c'est le 17 septembre, c'est-à-dire dans 10 jours, et c'est à Calvisson, dans le Gard. Voilà, il y a une représentation là-bas. Le 30 septembre, on sera au théâtre du Hangar à Marseille. Voilà pour les dates les plus proches, mais il y a des dates qui se précisent à Castelnau-le-Lez, je sais que j'en oublie une autre, mais bon, à Nîmes d'ailleurs, à Nîmes au début 2023, en mars 2023. Enfin voilà, il y a des dates qui se profilent et il va en avoir d'autres, bien sûr. On ne sait pas si on sera au Festival d'Avignon l'année prochaine encore. On a fait 2 années de suite, est-ce que la troisième s'impose? On ne sait pas encore.
En tout cas, le principal, c'est de faire plaisir en jouant sur scène, comme tu l'as dit. Je trouve que c'est très juste ton commentaire. Ça se sent quand les artistes s'amusent. Hein. Ça se sent complètement.
Oui, mais c'est aussi le danger, c'est que les artistes doivent s'amuser obligatoirement, parce que sinon, même quand on fait pleurer dans les chaumières, on doit, en tant qu'artiste, on doit y trouver, nous, du plaisir dans les ressorts qu'on utilise. Mais on est quand même dans un partage. Et généralement, c'est-à-dire qu'on doit être généreux sur le plateau. Le comédien et le public payent pour voir un spectacle, et donc les comédiens doivent être généreux. Ce qui est le cas, hein. J'ai 3 comédiennes sur Tartuffe qui sont extrêmement généreuses, qui donnent de leur personne, parce qu'à 3, faire Tartuffe, c'est quand même très physique. Elles sont, à ce niveau-là, elles sont remarquables d'engagement. Mais j'ai déjà eu beaucoup de comédies où on voit que les comédiens s'amusent, mais ils s'amusent entre eux. Ils sont pas du tout dans le allez, on se marre, et puis le public, on s'en fout un peu. Mais moi, je trouve ça, enfin, c'est, y a quelque chose qui me dérange.
Oui.
Voilà.
Très vrai, ce que tu viens de dire, en effet.
Okay. Donc voilà ce que je peux dire. S'il y a un truc que j'ai pas dit, pardon, c'est que j'ai le bonheur, avec 2 associés, de racheter un petit théâtre sur Avignon pour l'année prochaine. Voilà. C'était pas officiel parce que c'est pas signé. Je préfère ne pas le. Voilà. C'est officieux, mais je peux pas le révéler comme ça puisque c'est pas signé. Voilà. Tant que c'est pas fait. Mais c'est un petit théâtre. Hein. Il y en a beaucoup sur Avignon, mais c'est un vrai théâtre. En revanche, hein. J'achète pas un garage qui va se transformer à l'occasion pour accueillir des pièces. Non. Là, c'est un vrai petit théâtre permanent. Et j'en suis ravi parce que c'est une sorte de continuité de 30 ans de parcours déjà. Voilà,
s'il n'y avait que des petits théâtres, des vrais théâtres, comme tu dis, en Avignon, ça se passerait complètement différemment. Et puis on aurait quand même les valeurs de Jean Villard et de ceux qui ont créé.
Ça je suis d'accord, ça c'est vrai, mais on peut en parler. Et moi, si je rachète un petit théâtre, alors je pourrais prendre un peu plus grand, ça viendra peut-être plus tard, mais actuellement je trouve qu'il y a quelque chose il y a un dévoiement du Festival d'Avignon par rapport aux origines actuellement, qui est de, on a toutes les grosses productions parisiennes aujourd'hui qui viennent soit faire du lobbying pour les Molières, la cérémonie des Molières, j'entends, soit faire juste de l'argent parce que c'est des pièces à succès et ils savent que ça va marcher. Il y a des grosses, grosses, grosses salles et des grosses, grosses productions qui sont là, qui sont bonnes, hein, pour la plupart. Enfin, il ne s'agit pas de critiquer, de jouer les aigris, quoi que ce soit. Mais je trouve qu'Avignon n'est pas le lieu, c'est un lieu de découverte où on laisse des gens émergents. Quand vous avez Michalik qui s'est fait connaître grâce au off d'Avignon, même Olivier Py à l'origine, c'est bien. Mais aujourd'hui, Michalik, il est dans des salles, dans la plus grosse salle d'Avignon de 640 places. Il faut se dire simplement que, un, il y a beaucoup plus de spectacles qu'il y a 10 ans, et que le public, lui, n'a pas forcément augmenté. Donc, quand vous avez les grosses prods qui viennent siphonner la part du public, et les 640 places qui vont voir Michalik, forcément, ils vont pas voir d'autres spectacles parce que et les budgets et les propositions de spectacles, enfin, on peut pas, c'est quasi du mathématique et que le public aujourd'hui, ça c'est la modernité, connaît à l'avance son programme à 90%. Et les billets sont pris en amont, tout s'est fait par internet, etc. Ce que je comprends, on fonctionne tous pareil. Mais Avignon, c'était la découverte. On rencontrait les artistes dans la rue qui venaient nous parler de leur spectacle et on s'est dit, ah bah tiens, ça a l'air intéressant, on y va, on se laisse une place pour la découverte, pour être surpris. Et aujourd'hui, ben, on est dans une toute autre logique et on réalise. Enfin, moi qui fais mon festival de l'Avignon, enfin, c'est le 18e auquel j'ai participé cette année. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est aussi pour ça d'ailleurs que je prends un petit théâtre en me disant, bon ben, on va continuer le mieux possible tant qu'on peut. et ce serait bien que des gens connus, à la limite, viennent dans les petites salles aussi, oui, finalement.
Tout à fait, exactement.
Voilà. Oui. Voilà. Bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule, histoire de... mon analyse, tout simplement, c'est même plus un coup de gueule.
C'est parce que, si je peux me permettre, le public n'est pas idiot. Moi-même, je ressens ça depuis 2-3 ans. Je trouve un peu dommage, comme dire, moi je suis basé à Villeurbanne, donc Jean-Villard, on connaît avec notre TNP.
Et oui, et comment ?
Mais je
et
trouve oui. un peu dommage de voir que parfois Avignon se transforme en vaste affaire business, mais poussé à l'extrême, c'est pas le cas sur Cannes. À Cannes, on a encore une certaine morale. Voilà, c'est tout. Donc c'est bien ce que tu as dit, parce que tu l'as dit à ton niveau.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas, faut pas jouer non plus les vierges effarouchées, dans le sens où ça a toujours été du business. C'est-à-dire que même une compagnie non subventionnée, une petite compagnie qui est là pour et qui se plie en quatre pour faire le Festival d'Avignon, son but c'est de se faire connaître, c'est de vendre son spectacle à différentes salles dans toute la France et même au-delà, etc. Il y a quand même le business était déjà là, mais on pouvait perdre de l'argent sur Avignon, en faisant le festival. Et en revanche, c'était comme quand on participe à un salon, souvent ça a un coût, mais ensuite derrière, on fait beaucoup de ventes, voilà. Et que là aujourd'hui, ce qui change, c'est que beaucoup viennent capitaliser sur Avignon et on va gagner de l'argent sur Avignon. Mais Avignon, c'est un investissement avant d'être un voilà.
C'est une vitrine, tout à fait.
C'est une vitrine. Et c'est bon. Et puis c'est toujours pareil. Hein. L'argent va à l'argent. Hein. Enfin ça, moi je joue pas le révolutionnaire ni de salon ni le rebelle de pacotille. Mais même dans le subventionné, c'est-à-dire les théâtres qui sont aidés par des organismes, etc. C'est toujours les mêmes. L'argent va à l'argent, toujours. Voilà. C'est un des bilans
Grégoire Aubert, metteur en scène du Tartuffe de Molière, que on peut voir. Vous allez sur le site internet, il n'y a pas de problème, vous le retrouvez sans problème. Merci à toi.
Mais on sera ravis d'avoir encore plein de public qui viendrait redécouvrir ce Tartuffe qui est toujours aussi moderne. D'accord. Toujours aussi. Voilà.
Merci à toi en tout cas.
Et merci Alain pour cette jolie interview. C'est toujours agréable de pouvoir parler de sa passion et échanger comme ça. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.